Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va Célia, tout va bien ?
Eh bien écoutez, oui, tout va bien, le soleil est revenu sur Paris, c'est bientôt les vacances, voilà, donc quoi demander de mieux ? What else, comme dirait l'autre.
What else, c'est oui, parce que Célia Morès prépare ses vacances et en plus Célia Morès prépare sa venue pour ce NutriTalk Gala qui va arriver là très très vite, c'est le 7 juin prochain. N'oubliez pas mesdames, messieurs, le NutriTalk Gala, premier événement organisé par Nutri Radio, table ronde, convivialité, savoir, échange, partage, et puis dance floor un peu quand même, hein, on va faire un truc hein, quand même, on n'est pas là pour s'ennuyer. Et c'est un grand moment, on vous attend nombreux, rendez-vous sur le site nutriradio.fr pour en savoir plus. Car aujourd'hui, maintenant c'est l'heure de la concentration, voyez-vous, avant le réconfort, l'effort de concentration qui est d'ailleurs de plus en plus dur. Et grâce à Célia, eh bien, on en apprend chaque jour et chaque instant sur le fonctionnement de notre cerveau. Aujourd'hui, on va continuer la découverte des lobes du cerveau avec le lobe temporal. Et pour les autres, je vous conseille d'aller écouter les émissions en podcast à l'issue de celle-ci, par exemple, comme ça vous faites toute la série d'un seul coup. Alors, le lobe temporal, Célia, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Alors, le lobe temporal, il a finalement plusieurs rôles. Il est impliqué dans beaucoup de rôles. C'est pour ça que j'ai décidé, chers auditeurs, de dédier au lobe temporal une émission entière, effectivement, coupée en trois parties. Première partie, nous allons parler du lobe temporal, finalement, là où il est situé à peu près au niveau de l'oreille. Vous savez, c'est à ce niveau-là, au niveau des tempes. Donc, il va être impliqué dans quoi ? Dans l'audition. Le fait que vous puissiez reconnaître un son, un ton, comme on dit lorsqu'on parle de musique, le fait que vous puissiez reconnaître la voix de quelqu'un, d'un de vos proches, savoir si c'est du langage, pas du langage, bref, tout ce qui touche à l'audition, c'est grâce justement à votre lobe temporal. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce cortex auditif ? Finalement, vos oreilles vont capter les ondes sonores. Ces ondes sonores vont être transmises à votre cerveau, effectivement, pour être analysées, traitées. Donc, on va avoir une première zone réceptrice juste de l'onde sonore, physique, on va dire. Et ensuite, on va avoir des zones situées au niveau de ce cortex auditif qui vont permettre de traiter ce qu'est ce son, de reconnaître ce son et donc de lui donner une certaine signification. J'entends par signification, est-ce que c'est de la musique ? Est-ce que c'est un son ? Quel type de son c'est ? Quelle note c'est éventuellement ? Est-ce que c'est un ton ? Ça, c'est les différenciations au niveau de tout ce qui est musique. Et aussi, est-ce que c'est la voix d'un proche, pas la voix d'un proche ? Est-ce que c'est du langage ? Donc, c'est finalement ce point important qui vous permet effectivement de savoir qui vous parle, quand on vous parle, de pouvoir écouter la musique, enfin d'entendre les sons et de les comprendre. C'est vrai que le cortex auditif est très dur à analyser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus, lorsqu'on fait des études sur la perception visuelle, parce que c'est beaucoup plus simple. Parce que lorsqu'on parle de sons, de cortex auditif, il y a tellement de types de sons différents, d'ondes finalement pas sonores différentes, mais enfin d'informations sonores différentes, ce qui fait que ça complexifie la tâche. Au niveau de ce lobe temporal aussi, on va avoir une autre zone qui s'appelle la zone de Wernicke. Wernicke, c'est quoi ? C'est la zone de compréhension du langage. Ce qui semble logique que la zone de compréhension du langage se retrouve au niveau du temporal, puisqu'on ne peut comprendre que ce qu'on entend. En fait. Donc, si vous voulez, chers auditeurs, c'est que ces régions cérébrales sont assez proches parce que justement, elles vont interagir ensemble de manière assez rapide. Donc, cette aire de Wernicke est impliquée dans la compréhension du langage, ce qui fait que lorsque vous comprenez ce qu'on vous dit, par exemple, actuellement, vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis. Vous êtes en train de comprendre les mots qui sortent de ma bouche, tout simplement parce que vous avez votre zone de Wernicke qui est active et qui ne comporte pas de lésions, donc qui fonctionne correctement. Souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi en tous les cas l'émission de la semaine dernière, ou alors j'invite des autres à aller voir les podcasts, nous avions parlé du lobe frontal avec la zone de Broca qui était impliquée dans la production du langage. Et je vous avais dit que Broca avait découvert cette zone grâce à un de ses patients, Monsieur Le Borgne, qu'il avait surnommé Tan, parce qu'il ne répondait que Tan, Tan, Tan à tout ce qu'il lui demandait. Il avait juste un problème de production. Or, les questions qui lui étaient posées, il les comprenait parfaitement. Donc, cette zone de compréhension du langage interagit bien évidemment avec la zone de production du langage, vous vous en doutez bien. Et au niveau de la zone de réception du langage, de compréhension du langage, en fait, finalement, un mot ne peut être reconnu que s'il est compris. C'est-à-dire que là, si vous reconnaissez les mots que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement parce que vous les avez compris et que votre zone de Wernicke fonctionne correctement. Évidemment, s'il y a un AVC, donc un accident vasculaire cérébral au niveau de cette zone, il peut y avoir des problèmes de compréhension du langage juste dû à une lésion cérébrale à ce niveau-là. Voilà pour la première partie, si je puis dire, sur ce lobe temporal, donc audition et langage aussi, ce qui est évidemment très important. Et nous verrons en deuxième partie une région très importante de ce lobe temporal qui est l'hippocampe dont nous avons parlé. Et en troisième partie, je passerai au système de récompense et vous verrez aussi son implication dans beaucoup de nos comportements et le fait que ce système soit très très important, effectivement, même pour notre survie.
Oh là là, Célia Morès, et vous savez qui avait une grande zone de Wernicke ? Bah, le général de Gaulle, parce que français, française, je vous ai compris. Et c'est pour cela, maintenant, qu'il comprenait bien les choses. Vous êtes d'accord avec moi, Célia ? Non, pas du tout. Oui,
bah,
non.
Écoute, alors, je ne sais pas s'il avait une zone de Wernicke plus grande ou quoi, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de compréhension, on pourrait le citer un exemple. Ça pourrait effectivement...
Oui, ça va résonner comme ça.
Ça peut résonner avec, finalement, des documents en histoire. Quoi. On ne se rend même pas compte que même parfois, l'Antiquité, justement, là, il faut pousser un peu plus loin. Donc, Fabrice, puis chers auditeurs, effectivement, il y a des notions qui, aujourd'hui, sont encore d'actualité, hein, notamment certains mots qu'on utilise comme les hypnotiques, Fabrice. Ben, il faut savoir, et chers auditeurs, il faut savoir, là je parle d'un petit peu de sommeil, je me sors du cadre, mais effectivement, ben, ça vient de hypnose, qui était effectivement un dieu ou semi-dieu au niveau de l'Antiquité et enfin au niveau de la mythologie grecque, et impliqué dans tout ce qui était sommeil. Donc, comme quoi, finalement, l'histoire, voilà, il y a des relations avec l'histoire, effectivement.
Si on explore le cerveau à travers l'histoire, je pense que vous auriez des choses très intéressantes à nous dire. C'est comme en art où on pourrait vous écouter pendant des heures et apprendre en même temps. C'est un peu votre vocation, vous, la transmission. Allez, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio, la suite de cette émission. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les émissions de Célia Morès comme celles de toutes les autres intervenants d'ailleurs en podcast hein, sur nutriradio.fr. On parle du lobe temporal aujourd'hui et vous vouliez également nous parler de l'hippocampe dans cette seconde partie d'émission.
Alors totalement, pourquoi l'hippocampe ? Parce que c'est la structure cérébrale dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, chers auditeurs, donc je vous invite à aller réécouter notamment les émissions sur la mémoire. L'hippocampe, c'est une structure cérébrale qui est impliquée dans la mémoire, dans l'encodage quelque part des informations. Elle est impliquée aussi dans nos souvenirs, en tous les cas, elle interagit lorsqu'on retransmet un souvenir. Tout simplement, l'hippocampe est une région qui va nous permettre de lier le où, le quoi et le comment. C'est-à-dire de donner un contexte à un événement que nous avons vécu. Pouvoir raconter qu'on est allé au restaurant avec ses amis, dans tel restaurant, qu'on a mangé cela, qu'il s'est passé cela, c'est notamment grâce à votre hippocampe. Lorsqu'on a des altérations au niveau de l'hippocampe, et moi j'ai travaillé sur les patients atteints de schizophrénie, or on sait que les patients atteints de schizophrénie ont des problèmes de mémoire dite épisodique, donc de mémoire qui permet de lier le où, le quoi, le comment, qui permet de contextualiser un événement, c'est notamment dû à des altérations, des anomalies au niveau de leur hippocampe. Donc, ça a des conséquences sur leur mémorisation. Automatiquement, ils sont capables de mémoriser des événements, mais pas forcément de dire où, quoi, comment, quand ça a eu lieu, à quel moment. Je vous donne un exemple. Vous travaillez avec eux à l'époque sur la représentation mentale de l'environnement et pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Pour faire cela, ils devaient me décrire un trajet à une personne. Donc imaginez, chers auditeurs, que quelqu'un dans la rue vous demande son trajet. Vous allez lui décrire le trajet pour aller se rendre du point A au point B comme il vous l'a demandé. Si vous pouvez vous faire ça, c'est grâce à votre hippocampe. Et si ensuite la personne peut le raconter à une autre personne, etc., c'est grâce à son hippocampe. Parce que si votre votre hippocampe était lésé, vous seriez incapable d'expliquer un trajet à quelqu'un parce que vous seriez incapable de lui dire qu'il faut tourner à droite à la pharmacie. Vous pouvez dire, sur le trajet, vous allez avoir une pharmacie, mais à savoir à quel moment est-ce qu'il faut tourner à droite ou pas à droite, il va y avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc, on voit bien que l'hippocampe est impliqué dans ce type de mémoire. Or, notre mémoire épisodique, c'est la mémoire de notre vie, de nos événements de vie. Donc, c'est quand même important qu'elle fonctionne correctement. C'est la mémoire qui est impliquée, est impliquée aussi dans ce qu'on appelle la construction, chers auditeurs, de cartes cognitives. Alors, c'est quoi les cartes cognitives? C'est des représentations en survol que l'on peut avoir d'un environnement. Lorsqu'on se dirige dans un environnement d'un point A à un point B, soit on est comme moi, on n'a pas le sens de l'orientation, donc on sait qu'il faut tourner à droite à la pharmacie, mais si on vient dans le sens contraire, on ne sait pas qu'il faut tourner peut-être pas dans le bon sens parce qu'on est complètement perdu. Voilà, hein, moi je fais la toupie, il n'y a plus personne pour la petite histoire. C'est pas forcément féminin, hein, je rassure tout le monde. C'est faux. On n'a pas la même façon d'appréhender l'espace. Mais c'est vrai que généralement, les personnes qui arrivent à prendre des raccourcis, qui ont une représentation mentale de l'environnement, en fait, une représentation en survol. Imaginez, vous êtes un oiseau, vous voyez une carte, vous avez une représentation en survol et vous pouvez ainsi prendre des raccourcis parce que la route est barrée, parce qu'il y a des travaux, vous pouvez emprunter un autre chemin parce qu'il y a un souci, etc. C'est grâce à votre hippocampe parce que c'est au niveau de l'hippocampe qu'on a cette carte cognitive de l'environnement qui construit une représentation en survol de l'environnement. D'autre part, votre hippocampe est impliqué aussi, nous l'avons déjà dit dans l'émission sur la mémoire et sur les apprentissages, etc., dans l'apprentissage. C'est-à-dire que finalement, plus l'hippocampe sera actif, plus il va y avoir des apprentissages. Quand il y a des lésions au niveau de l'hippocampe, il y a des difficultés de mémorisation d'informations nouvelles et des difficultés, effectivement, d'apprentissage. Et c'est très lié, souvenez-vous, on en a parlé dans une émission, chers auditeurs, de certains neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, et un neurotransmetteur qui est notamment largement localisé, alors pas que dans cette région-là, bien évidemment, mais largement localisé au niveau de l'hippocampe, et c'est impliqué aussi dans la mémorisation des informations. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsqu'une personne est en déclin cognitif, avec perte de mémoire, et notamment chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il y a une diminution du taux d'acétylcholine, notamment au niveau de l'hippocampe.
Célia, on peut se le dire, les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, tourne à droite, elle tourne à gauche. Non, je plaisante. Mesdames, s'il vous plaît, c'est de la boutade.
On n'a pas le même sens de l'orientation. En fait, pour tout dire, vous n'êtes pas loin, en fait, Fabrice. Hein. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a des études qui ont montré qu'on ne l'avait pas forcément, qu'on était moins bon. Après, il y a des études qui n'ont pas de différence entre les sexes. Finalement entre hommes-femmes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une femme aurait plutôt, chers auditeurs, une représentation dite en version route-trajet, c'est-à-dire, je prends telle orientation, je tourne à droite à la pharmacie, je fais ça. Donc, cette orientation finalement centrée, égocentrée, ce qu'on appelle égocentrée, centrée sur notre propre corps, hein, c'est OK, c'est à droite de mon corps où il faut que je tourne, moi, si je sais que j'utilise cette méthode-là. Et les hommes seraient plutôt version survol, donc centrée sur l'environnement, d'avoir cette représentation un petit peu comme un oiseau. Ce qui fait qu'évidemment, évidemment, s'il y a un souci sur le trajet, c'est peut-être plus facile de prendre des raccourcis parce qu'ils ont une vue d'ensemble peut-être un peu plus poussée. Et encore que ce n'est pas forcément prouvé chez tout le monde. Il y a des études finalement qui vont dans le sens contraire et qui prouvent que même sur ce niveau-là, il n'y aurait pas de différence. Donc, c'est très controversé, mais ça pourrait venir de là des stratégies utilisées pour se diriger dans la rue qui ne seraient pas les mêmes entre les hommes et les femmes.
Et bien voilà, vous voyez, c'est incroyable ces histoires, on en apprend, et finalement on se dit qu'il n'y a pas tant de différence que ça, donc pas d'excuse pour arriver en retard. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, suite et la fin.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio, vous avez compris, en forêt, c'est pas elle qui va vous donner la route. Perdu en forêt, vous, on vous met dans au bout de, enfin quelle est la surface nécessaire afin que vous puissiez vous perdre, Célia.
Pour tout vous dire, cher Fabrice, je suis capable de me perdre dans ma ville d'origine. Je suis de Nice d'origine et quand j'y retourne, si parfois je ne mets pas l'application plan de mon téléphone, je suis encore capable de me perdre. Hein, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas douée. J'ai aucun sens de l'espace et pas de carte cognitive du tout. Donc c'est très drôle pour quelqu'un qui a travaillé sur les cartes cognitives de l'environnement chez les personnes à qui elle demandait d'en former, parce que j'en suis, je pense, incapable. En tous les cas, je le sais, mais je confirme, je l'affirme. Et
vous l'assumez.
Je l'assume, voilà, voilà. Je ne trouvais plus le mot, mais je l'assume totalement, Fabrice.
Et en plus, avec les nouveaux outils, c'est vrai, aujourd'hui, hein, les applications Waze et compagnie, on est incapable de faire un peu... Enfin, on se perd, hein, et on est capable de prendre le mauvais chemin, alors qu'on sait même que c'est le mauvais, mais c'est la carte qui nous indique, le GPS, donc on y va. Et on se dit, mais je le savais. Donc, ce n'est pas forcément évident pour travailler ce petit... parfois, ce petit manque de repères dans l'espace. Quoi qu'il en soit, Célia Morès, vous ne vous noyez pas dans un verre d'eau, et ça, c'est le plus important, car on continue, grâce à vous, de découvrir nos lobes du cerveau. On a vu le lobe temporal, on a vu l'hippocampe, et on va voir maintenant le système de récompense. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le système de récompense est situé au niveau du lobe temporal. Et le système de récompense est impliqué lorsqu'on prend du plaisir à faire quelque chose, lorsqu'on est motivé à faire un comportement, c'est notre système de récompense. Donc, on le verra dans une prochaine émission que j'ai dédiée finalement aux addictions. Pourquoi ? Parce que ça fait le lien avec cette dernière partie d'émission où, pour les addictions, nous le verrons, le système de récompense, bien évidemment, est impliqué. Donc, le système de récompense, chers auditeurs, c'est quoi ? Quand vous allez au restaurant et que vous prenez du plaisir, votre système de récompense s'active. Lorsque vous écoutez Nutri Radio, et notamment la sphère neuro, vous prenez du plaisir, votre système de récompense va s'activer. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir libération de dopamine. La dopamine, souvenez-vous, on en a parlé, c'est le neurotransmetteur qui est impliqué dans le plaisir que l'on prend à faire quelque chose, la motivation qu'on a envie, notre motivation à faire le comportement et le fait qu'on va refaire le comportement. Parce qu'évidemment, un comportement positif qui nous a occasionné du plaisir, on va être motivé pour le refaire et on va le refaire. Si vous avez passé un bon moment dans un restaurant, vous avez aimé le restaurant, vous allez avoir envie d'y retourner. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du système de récompense ? Trois composantes. La composante d'abord hédonique, plaisir. On prend du plaisir à faire cela. La deuxième composante de ce système de récompense est finalement le côté motivationnel. Je suis motivé à refaire le comportement. Et la troisième, c'est la cognitive. Pourquoi ? Parce que j'ai appris, j'ai eu un apprentissage comme quoi faire ce comportement me donne du plaisir. Donc, évidemment, je vais le reproduire. Ça, c'est les trois composantes de ce système-là. Va être impliquée donc finalement la dopamine qui sera libérée en fait. Les neurones dopaminergiques se situent à ce niveau-là au niveau d'une aire cérébrale qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale qui va libérer la dopamine au niveau du nucleus accumbens, mais pas seulement au niveau du nucleus accumbens. Là, c'est pour le plaisir seulement. On va en avoir au niveau d'autres zones cérébrales et on va avoir notamment au niveau du cortex préfrontal puisque c'est lui qui est en charge de la composante finalement cognitive, de ce comportement cognitif, de je sais que ça me fait plaisir, j'ai appris que ça me faisait plaisir, et de finalement la mise à feu du comportement, de dire je vais faire le comportement. D'autres régions cérébrales dans ce système de récompense, même si on sort un petit peu du système de récompense restreint, ça va être quoi ? Les zones cérébrales comme l'hippocampe, justement, dont nous venons de parler à l'instant dans la deuxième partie de l'émission, donc juste dans la partie précédente. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'apprendre que le comportement vous fait plaisir et de le retenir à long terme. Parce que sinon, si vous ne retenez pas à long terme que ce comportement vous fait plaisir, c'est comme si vous allez le redécouvrir à chaque fois. D'autre part, on va avoir aussi notre structure cérébrale, chers auditeurs, qui est l'amygdale. Alors, ce n'est pas les amygdales qui sont dans votre gorge, hein, qu'on vous enlève quand on est petit pour des problèmes d'angine, de végétation, je ne sais trop quoi. C'est vraiment une autre structure cérébrale, mais elle s'écrit pareil. C'est la même orthographe qui est située au niveau du cerveau et qui est en charge de tout ce qui est émotionnel. Ça va permettre, cette structure va être notamment impliquée dans l'évaluation du caractère plaisant ou déplaisant d'une expérience. Et elle est située proche de l'hippocampe. C'est logique, plaisant, déplaisant. Vous allez enregistrer l'information grâce effectivement à votre hippocampe à long terme. Et ensuite, lorsque vous allez voir l'objet du plaisir, votre cortex cognitif, votre cortex préfrontal, donc la composante cognitive va s'activer pour vous motiver à refaire le comportement. Il faut savoir que ce système de récompense est impliqué notamment aussi dans le système limbique, qui est un système finalement un peu plus large que ce système de récompense et qui est notamment impliqué dans tout ce qui est émotionnel. Donc, ce système est important parce que si on manque de dopamine au niveau du système de récompense, qu'on bloque, par exemple, la libération de dopamine au niveau du nucleus accumbens, on va avoir des problèmes comportementaux qui peuvent être délétères pour notre survie parce que, par exemple, cet effet chez le rat, pour savoir ce qui se passe, et chez le rat, ben, le rat à qui on avait finalement bloqué cette décharge de dopamine a refusé, n'était plus motivé pour aller se nourrir. Et donc, évidemment, ben, il est mort de faim. Donc, voilà l'implication du système de récompense plaisir, motivation à faire un comportement. C'est votre système de récompense et tout simplement, effectivement, nous verrons dans une autre émission, chers auditeurs, comment est-ce qu'il est impliqué dans les addictions, finalement, quel est le côté neurobiologique des addictions et on verra que le système de récompense joue un rôle prépondérant dans les addictions.
Eh bien, merci beaucoup, Célia. Merci beaucoup encore pour cette masterclass. C'est très clair. On comprend mieux maintenant les méandres de notre cerveau, son fonctionnement. Et pour tout savoir, c'est bien. C'est toujours intéressant. Parce que c'est très complexe. On pourrait même aller au-delà. Combien de neurones on a à peu près ?
Oh, plusieurs milliards, Fabrice.
Plusieurs milliards. France,
voilà, plusieurs milliards. Je n'ai pas les derniers chiffres en date parce que c'est vrai que depuis... les cours que je donnais en neurosciences, il y a eu probablement des évolutions au nombre de neurones, mais je sais que ça se compte en milliards, quoi. Je veux dire, c'est affolant. En plus, il y en a, ça se crée, il y a mort neuronale, et puis on sait qu'aujourd'hui, il y a toujours une neurogenèse qui continue justement au niveau de l'hippocampe, ce qui nous permet d'apprendre de nouvelles informations. Donc, on n'est plus dans le pool de dire à partir de 25 ans, on perd tous nos neurones jusqu'à la fin de notre vie. On est toujours il y a toujours de la neurogenèse. Et puis, il faut aussi savoir qu'en dehors du neurone lui-même, ce qui est important, chers auditeurs, chers Fabrice, c'est aussi les connexions neuronales entre elles. C'est-à-dire que si ça fonctionne bien, c'est qu'il y a des connexions neuronales. C'est comme un réseau Internet. Si vous êtes sur Internet, vous avez beau avoir Internet, moi j'ai parfois chez moi, certains sont au courant avec de gros soucis de connexion Internet, bah, ce qui va se passer, c'est que si je n'ai plus Internet, j'ai beau avoir, je ne suis pas connecté, je ne peux pas me connecter à quelqu'un pour justement faire un webinaire. Donc c'est pareil au niveau des neurones. C'est pas le fait d'avoir le neurone aussi qui est important, c'est le fait que ces neurones soient connectés entre eux, qu'il y ait une synapse entre ces neurones pour que les informations passent et que le comportement puisse avoir lieu.
Et bien voilà, donc on va faire des émissions, un neurone par jour pendant plusieurs milliards d'années, c'est sur Nutri Radio, premier rendez-vous, on a une belle émission et donc on va forcément travailler sur la longévité. Bon, cette émission, en tous les cas, vous la retrouvez en podcast à partir de 18h ce dimanche, mais c'est vrai que c'est fascinant, hein. Quand on explore cet univers-là, c'est fascinant. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous parler de physique quantique aussi, Célia, un petit peu dans les expériences de la quantique biologique par exemple?
Alors, pas de mémorisation comme ça, mais je vais me renseigner parce que peut-être que j'ai en tête éventuellement une personne qui pourrait éventuellement parler de physique quantique, mais voilà, j'ai pas forcément les coordonnées directes, donc je vais voir si la personne que je connais peut éventuellement faire passer le message, mais ça pourrait être effectivement, si ça vous intéresse, chers auditeurs, puis cher Fabrice, pourquoi pas, effectivement, parce que là, c'est un domaine que je connais absolument pas, la physique quantique.
On prépare la saison prochaine, c'est pas évident, on peut pas en parler, enfin, tout le monde n'est pas capable de vulgariser la physique quantique, la quantique biologique, c'était fascinant, mais en même temps, ça peut être très compliqué si on ne suit pas. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, Célia, c'est le retour de la musique tout de suite. Au revoir, Célia.
Au revoir, Fabrice. Au revoir, chers auditeurs.
Restez avec nous.
La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio.